France Inter.
Bonjour Frédéric et bonjour à toute l'équipe de Blockbuster. Eh bien, ça y est, on va bientôt entamer cette dernière semaine de Blockbuster et ça me fait quelque chose quand même au cœur après toutes ces années. En tout cas, elle finit vraiment en apothéose, vraiment que du bon. Je te souhaite que du bien, du meilleur, du bon pour la suite. En tout cas, merci pour toutes ces années. Merci, merci. Au revoir.
Bonjour Blockbuster, bonjour Frédéric. Je vais aller marcher dans les Alpes, une randonnée de 29 jours. Et tous les soirs, sous ma tente, j'écoutais un podcast bien fonctionné. J'avais gardé les podcasts qui m'intéressaient le moins. Et en l'occurrence, c'était Warhammer 40 000. Le thème ne me disait rien et pourtant l'émission m'a passionné. Je suis allé regarder un paquet de vidéos de Mélodie. La manière dont elle parle de Warhammer est assez chouette. Et derrière, je viens de passer trois soirées au French Wargame Café à regarder des gens jouer à Warhammer. Bon, je reconnais que financièrement, j'avais pas besoin de ça, hein. Mais merci pour la découverte, Frédéric. À bientôt.
Oui, Fred, c'est Karine. Bon, écoute, je vais pas te faire l'autre itinéraire que les autres gens te font. Je trouve que ton émission était super. J'espère qu'on te retrouvera sur une autre radio ou sur un podcast. En tout cas, super pour Stargate lundi. J'adore cette série, j'adore le film. Vraiment super. Et ben, encore merci pour toutes ces années à t'écouter sur la pop culture. Tu m'as fait apprendre des choses. Tes invités m'ont fait apprendre des choses. Voilà. À plus, Fred.
To be or not to be, not to be.
La Terre est plate. Le gouvernement américain nous cache l'existence des extraterrestres. Les pyramides ont été construites par des aliens.
Moi, franchement, je trouve que les conspirationnistes sont fascinants. Ils ont une manière de voir le monde qui n'appelle, selon moi, pas la moquerie, mais devrait plutôt susciter une forme d'admiration. Alors attention, je ne parle pas du conspirationniste de salon qui va te balancer des dingueries au comptoir ou du bar à 10h du matin. Non, moi je parle du conspirationniste qui s'engage, qui va prendre son sac de randonnée et qui va partir à pied plusieurs mois pour te prouver que la Terre est plate. Celui-ci, il a toute mon estime. Il vit dans son monde et il va au bout de ses idées. Respect. Il faut faire preuve d'une certaine force de caractère pour préférer une version dans laquelle les pyramides ont été créées pour je ne sais quelle raison par des extraterrestres qu'on n'a jamais revus, plutôt que par un pharaon, un chouïa mégalo qui l'a fait construire par des milliers d'ouvriers. On peut reprocher beaucoup de choses aux conspirationnistes, mais ils ne choisissent jamais la facilité. Un vaccin pour lutter contre une pandémie, tous les voyants du conspirationniste sont au rouge. On en veut à notre santé, on veut nous empoisonner. Mais des nicotinoïdes cancérigènes dans des champs de betteraves, du chlordécone interdit dans des plantations de bananes, bon bah ça, même pas le conspirationniste, il fait un PowerPoint. Et c'est ça qui me fascine le plus dans la recherche permanente du complot, c'est que j'ai pas vraiment l'impression que ceux qui abusent de nous se cachent vraiment. Le conspirationniste est finalement quelqu'un de très optimiste. Il pense que si les puissants nous font pipi dessus, ils auront au moins la décence de nous faire croire qu'il pleut.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Et où l'avez-vous trouvé ?
À Gizeh, sur le plateau 1928.
1928, j'ai jamais rien vu de ce genre, c'est extraordinaire.
Le contraire, c'est étonnant. Personne ne l'a jamais vu.
Il y a deux frises de hiéroglyphes. Ceux du cercle intérieur sont classiques, mais sur la bordure, comme dans le cartouche central, il y a une forme d'écriture que nous n'avions jamais vue.
Oui, ce ne sont pas des hiéroglyphes. J'ai bien l'impression qu'il s'agit d'une espèce d'écriture cunéiforme.
Oui.
La traduction du cercle intérieur n'est pas juste. C'est le glossaire de Budge. Quand décidera-t-on à cesser de l'imprimer ?
Je vous demande pardon. Qu'est-ce que vous faites, là ? Nous avons utilisé toutes les méthodes connues.
Quel mot étrange, hein ? Gébé ?
Oui.
C'est un adverbe ? C'est Gemenev, puis scellé. Et enfoui.
S'il vous plaît. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend ?
Non, pas cercueil. Pour l'éternité. T'as à se demander qui a traduit ça.
C'est moi, c'est mon texte.
Bon, alors il faut lire. Un million d'années dans le ciel se tiendra, Dieu du soleil, enfoui et scellé, pour l'éternité. C'est pas porte du ciel, c'est... porte des étoiles.
On
En 1994, le film Stargate, réalisé par Roland Emmerich et scénarisé par Dean Devlin, cartonne au box-office. Préfigurant le succès d'Independence Day ou Godzilla, c'est l'apparition d'un duo de créatifs qui aura rayonné sur le cinéma grand spectacle de la fin des années 90. Stargate raconte la découverte d'une mystérieuse arche dans l'Égypte de 1928, et 60 ans plus tard, une unité de militaires accompagnée d'un linguiste spécialisé en langue égyptienne franchit cette porte des étoiles qui les conduit à l'autre bout de l'univers, sur une planète extraterrestre où règne Ra, un alien dictatorial. Suite au succès et au rachat par le studio MGM, une série voit le jour intitulée Stargate SG-1 qui elle aussi séduit le monde entier, générant une communauté de fans partout sur la planète. Viendront ensuite Stargate Infinity, Stargate Atlantis et Stargate Universe qui feront de cette franchise une des séries de science-fiction les plus longues sur petit écran. Et pour revenir sur ce phénomène, je suis entouré par Atlant Props, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes collectionneur d'objets de l'univers de Stargate que vous exposez notamment en convention et vous concevez vous-même certains objets de décoration.
Exact.
Avec nous, Christelle Dukevitch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes passionnée de mythologie, vous avez écrit Les carnets de Dr. Jackson, un ouvrage sur la mythologie dans le film et la série Stargate.
Tout à fait.
Et enfin, Marco Maldini, bonjour.
Salut Fred.
Vous êtes vidéaste et rédacteur pour le site Stargate Fusion, site francophone qui réunit la communauté des fans de Stargate.
Exact.
Et j'aimerais profiter de cette émission pour la dédier à Vincent, un auditeur de France Inter qui nous a quittés il y a 15 jours et qui était fan, grand fan de science-fiction et de Stargate. Et donc voilà, je voulais avoir une pensée émue pour sa famille et pour lui. Voilà.
Tilk, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des Goa'uld ?
Ils règnent par la force. Ils sont très peu nombreux, mais ils se multiplient.
Combien de monde contrôlent-ils ?
Plusieurs centaines, peut-être même plus.
Et sommes-nous susceptibles de rencontrer ces Goa'uld partout où nous irons ?
C'est possible.
C'est la meilleure.
Mais il y a un grand nombre de mondes qui ne représentent aucun intérêt pour eux. Dans ces mondes, les gens sont abandonnés, les habitants livrés à eux-mêmes.
Y a-t-il un commandement ou un gouvernement avec lequel on peut négocier une paix ?
Certains, comme Apophis, sont de grands rois et règnent en Dieu sur plusieurs mondes. Mais ils n'ont pas besoin de la paix. S'ils pouvaient vous tuer tous, ils le feraient.
Le peuvent-ils ? Ils ont des vaisseaux spatiaux.
Oui. Mais sans la Porte des Étoiles, un tel voyage prendrait plusieurs mois. Peut-être même des années. Il impliquerait de nombreux vaisseaux et de nombreuses armées esclaves.
On ne doit pas suffisamment les déranger pour le moment, sans doute.
Ces esclaves, d'où est-ce qu'ils proviennent ?
Une légende parle d'un monde primitif que les Goa'uld ont découvert il y a des milliers d'années. La Tauri.
Vous venez d'entendre un extrait du deuxième épisode de la série Stargate SG-1. Le colonel Jack O'Neill est interprété par Richard Dean Anderson, MacGyver, et doublé en français par Edgar Givry, et Christopher Judge, doublé en français par Thierry Mercier, interprète Tilk. Alors, on va commencer à parler de Stargate dans sa globalité. Et Marco Maldini, qu'est-ce qui fait de Stargate une franchise si riche ?
Je m'attendais à cette question. Qu'est-ce qui fait que Stargate est si riche et j'ai envie de dire populaire ? C'est qu'en fait, c'est une série qui peut se passer à l'ère d'aujourd'hui. On n'a pas besoin d'imaginer quoi que ce soit. C'est la série qui peut exister demain, avec nos problèmes géopolitiques, avec sa diversité, avec ses explorations. Voilà.
Et à quel moment vous vous êtes tombé sur cette série ou ce film et vous vous êtes dit « Ah, mais ça c'est génial, je veux plus quitter cet univers ».
Un peu comme tout le monde, je pense ici, devant la télé, simplement le samedi, dans les années 90.
Voilà. Donc c'est vraiment avec la série, c'est pas avec le film.
Le film, non, j'étais trop jeune, moi à l'époque, je suis de 91, je suis désolé. Non, moi j'étais un peu jeune, j'ai découvert un peu le film après, mais j'ai découvert surtout SG-1 avant.
Atlant Props, donc comment ça s'est passé la rencontre avec Stargate ?
Alors moi j'ai adoré la série en détestant la série, parce que de base c'était mon beau-père qui squattait la télévision le soir, parce que ça passait à 17-18 heures je crois, et quand je revenais du collège, il était tout le temps devant la télé, devant Stargate, et j'étais là, mais Et à la trilogie du samedi à l'époque, avec tout ce qui était Buffy, Charmed, etc. Donc voilà, donc j'aimais pas trop cette série, puisque pour moi c'était symbole de mon beau-père qui squattait la télé. Et en fait quand j'ai compris que ça parlait d'Égypte...
Parlez-nous, hein. il faut que ça sorte maintenant.
C'est voilà.
Je vous chargerai pas 79€ à la fin de la séance.
Et qu'en fait, quand j'ai compris que ça parlait d'Égypte et qu'il y avait pas mal de mythologie autour de ça, c'est là que je m'y suis mis. Et maintenant, quand mon beau-père vient à l'atelier, qu'il voit tout ce que j'ai fabriqué, les objets que j'ai collectionnés, c'est lui qui est en mode gamin, qui est là, waouh, c'est trop bien.
Ah, c'est beau.
Donc ça, c'est trop cool.
Il y a un happy end.
C'est un beau souvenir.
Christelle Dikiewicz?
Moi aussi. Enfin, voilà, je pense que comme tout le monde à peu près de notre génération, 91-89, à la télé, et c'était pas 17h, c'était 18h45, parce que t'avais la pub en plus en plein milieu, et moi je sais que je ne pouvais jamais voir la fin des épisodes parce que c'était l'heure de manger. Et donc le lendemain, j'étais là avec ma copine, bon alors vas-y raconte-moi, il s'est passé quoi dans cet épisode et tout, et donc on en parlait à la récré et tout. Donc ouais, non, très bon souvenir de ce moment-là aussi.
Et à quel moment vous avez découvert a posteriori le film?
Je devais avoir peut-être une vingtaine d'années, pas tout de suite, parce que on n'avait pas non plus accès aux médias comme on peut l'avoir maintenant. Donc déjà fallait attendre que ça passe.
Fallait trouver la cassette.
Oui, aussi.
La VHS.
Je l'ai eu en VHS. Je l'ai encore. J'ai la VHS chez moi. Ouais.
Oh, trop bien. Ouais.
Et donc, quel effet ça vous a fait a posteriori? Parce que je sais que moi, j'ai vu Stargate en salle, parce que malheureusement, voilà, je suis plus âgé que vous. Et c'est vrai que pour moi, par exemple, Jackson, le colonel O'Neill, c'était Kurt Russell et James Spader. Et donc, vous, est-ce que ça a fait l'effet inverse en vous disant, mais qui sont ces usurpateurs?
Alors, je pense que là, je vais être un peu comme tout le monde. Quand t'es fan de Stargate, t'es forcément team SG1. Ça s'arrête là. Même quand Atlantis est arrivé, je pense comme beaucoup, on a du mal à accepter Atlantis au début.
Moi, je suis pas d'accord.
Et je pense, contrairement à Monsieur Atlantprops, que, tu vois, ce qui a fait le succès de Stargate, et Roland Emmerich l'avait dit dans une interview, ça parle d'Égypte, ça parle de pyramides. Et les pyramides sont le thème qui a été le plus vendu, qui a eu le plus d'œuvres de bouquins sur l'Égypte. Je crois, oui, c'est ce qu'il avait dit. L'Égypte, c'est vraiment le sujet sur lequel on écrit le plus. T'as l'Égypte, t'as Richard Dean Anderson, t'as tout pour que ça marche.
D'accord, donc pour vous, c'est SG1, le reste...
Non, maintenant, non, forcément, on ne peut pas, sinon on ne vit pas. Mais je pense que ouais, t'es forcément team SG1 quand t'es fan de Stargate. Tu peux moins aimer Atlantis.
Atlantprops, Dodeline.
Tu peux moins aimer Atlantis, moins aimer Univers, mais en tout cas, je ne connais personne qui dit SG1, c'est celle que j'aime le moins.
Après, je pense que c'est surtout Christelle aussi ta porte d'entrée dans l'univers SG1 pour 80% des gens, je pense. C'est, au-delà du fait que c'était la première, c'est aussi la plus longue. On a eu des rediffusions, machin et tout. Tente bien de pouvoir analyser. Et puis,
Atlantprops.
Non, moi, j'aime bien toutes les séries. Elles sont... Tant qu'elles sont connectées à Stargate. En fait, elles ont toutes de la mythologie. SG1, ça va être tout ce qui est Maya, Égypte, Camelot, Arthurien, etc.
Arrête de me piquer mon taf.
Ouais, c'est vrai. Atlantis, ça va être tout ce qui est mythe de Pégase. Donc, ouais, moi, j'aime bien toutes les séries parce qu'il y a toujours un côté mythologie. Mais un peu moins univers, mais bon. C'est plus la genèse des deux séries. Donc, ce qu'on appelle les anciens qui ont créé le système de portes, etc. Donc, ouais, moi, je suis un peu fan de tout.
Et c'est une communauté de fans extrêmement vivante, parce que c'est un secret pour personne que c'est en faisant une sorte de référendum pour cette dernière saison de Blockbuster que les auditeurs ont plébiscité en masse le sujet de Stargate, parce qu'il y a plein de gens qui m'engueulent après en me disant « Oui, vous avez choisi tel ou tel sujet !» C'est les auditeurs qui ont choisi. Hein. Moi, j'ai respecté ce pour quoi ils avaient voté. Et en fait, là, d'ailleurs, je vous remercie infiniment, parce que c'est vous qui vous êtes mobilisé très rapidement pour même constituer le plateau d'invités. Et j'ai rarement vu une communauté de fans aussi réactive et aussi vivante.
En fait, Fred, Stargate, c'est vraiment particulier pour la France. Je dirais qu'il y a deux pays au monde, avec les Allemands, on va dire, mais qui est vraiment particulier, c'est le Canada et la France. Stargate, La Porte des Étoiles, est une coproduction américaine-française, déjà. Il y a beaucoup de racines françaises, et il faut savoir, si je dis pas trop de bêtises, que c'est en France où la série a le mieux marché au-delà des États-Unis. Il y a vraiment quelque chose en France, et Stargate vit toute l'année en France, à travers les conventions, à travers les youtubeurs, à travers le travail de Julien. Vraiment, Stargate, ça vit toute l'année, c'est pas
qui est
un
Julien
mois de Atlantprops.
Non, parce que moi, j'ai Atlantprops, on m'a pas dit que c'était... Il a révélé son identité secrète comme ça.
Même moi, c'est un pseudo, hein.
Ah d'accord.
Ah bah bien sûr.
Mais on nous ment.
Mais on nous ment, c'est la conspiration. Non mais ce que je veux dire par là, c'est pas comme si c'était Noël ou autre. Stargate, ça vit toute l'année en France.
D'accord. Et justement, par rapport à ces conventions, j'en suis depuis plusieurs années. Et il y a quelque chose qui m'a toujours marqué, c'est que quelle que soit la convention, Stargate est une des rares séries où il y a toujours. Des acteurs de Stargate qui viennent se déplacer pour signer des autographes et tout ça. Tant et si bien que j'ai l'impression que les autres séries de science-fiction ont eu tendance à se dire on va faire aussi comme Stargate.
Comme l'avait dit Julien, il y a aussi la génération trilogie du samedi. Charmed, Stargate, donc c'est vraiment en convention.
Vous êtes contractuellement obligé de dire Buffy aussi.
Buffy aussi, excuse-moi. Voilà. Mais c'est vraiment les séries qui reviennent le plus en France, et on va pas se mentir, je vais mettre un peu le pied dans le plat, du Stargate, ça coûte moins cher que du Star Wars. Il y a aussi ça. Les acteurs coûtent moins cher. Pas tous, Richard coûte très cher, mais la plupart des acteurs coûtent moins cher.
Oui, donc c'est ça qui explique qu'on les voit plus souvent.
C'est populaire et c'est moins cher.
Toutes les séries populaires, généralement, on revoit les acteurs en convention. Les acteurs de Charmed aussi. Je crois que des acteurs, il y a des conventions. Les frères Dawson, je crois que j'ai vu récemment à Paris.
Smallville aussi, du Supernatural, même si c'est venu un peu après. Exact.
Ce qui est années 80-90, ça marche assez bien, puisque les acteurs sont assez abordables pour les conventions. Et du coup, c'est pour ça qu'on arrive à les voir assez souvent, moins que les acteurs récents de... Je vais prendre Pedro Pascal, par exemple. Les cachets ne sont pas les mêmes, donc c'est un peu différent.
Qui a été dans Buffy, d'ailleurs.
Exactement.
Petit vampire.
Il est arrivé sur le campus, et puis paf. Mauvais
la faute
endroit.
À pas de chance.
Ouais, mauvais endroit. Alors, évidemment, là, on parle de la série SG-1, mais est-ce que vous seriez capable de m'expliquer comment est né le film Stargate à la base de tout cet univers?
À la base, je pense qu'on a tous les mêmes références. C'est Roland Emmerich et Dean Devlin qui vont imaginer ce scénario. C'était un rêve de gosse, à la base, pour Roland Emmerich, à la sortie de son école de cinéma, de faire un film sur l'Égypte. Et ça a été son premier film, son premier succès. Et il l'a écrit avec Dean Devlin, et je pense que tout est parti de là, d'une passion. Et c'est pour ça que Stargate a aussi bien marché. Brad White, Jonathan Glasser, qui ont repris la série après, au-delà du réel, c'était aussi des passionnés. C'est pas des réalisateurs qui font ça pour l'argent, pour le business. Avant tout, c'est des passionnés.
Et ce qui...
Oui, non, j'allais dire. Et puis Richard Dean Anderson, qui était vraiment. Il a vu le film, vas-y, c'est trop bien, hop, je vous embarque, on fait une série. Et puis, en tout, il y a 17 saisons quand même, 10 plus 5 plus 2. C'est...
Compte pas le dessin animé.
Non.
Ni Origine, parce qu'il y a aussi
non.
Origine.
Non, c'est pas cohérent avec la timeline, ça me convient pas.
Oui, là, j'imagine les gens qui sont en train de dire, c'est pas cohérent avec la timeline. Non, vous inquiétez, on n'ira pas
Marvel, de ce côté-là. On sait ce que c'est une timeline.
Voilà.
Ça va.
Quand on revoit le film d'origine de Stargate, et je l'ai revu pour préparer cette émission, ce qui m'a frappé, c'est la vitesse à laquelle on est dans le bain et où tout est expliqué, mais de manière très précise. D'ailleurs, je trouve même que c'est presque une leçon de narration pour les films modernes, parce qu'on même pas 15 secondes, on sait qui est Jackson, on sait qui est le colonel O'Neill, il est angoissé, son fils a eu un accident avec une arme à feu, etc. Donc du coup, il est dépressif. Et il y a tout, on a trouvé la porte des étoiles en 1928. En même pas 10 minutes, tout est posé, et hop, on passe à travers la porte, on va sur une autre planète.
Et à la base, surtout, Stargate, c'est quelque chose de triste. Aujourd'hui, on voit ça, c'est grandiose, c'est moderne et tout, mais c'est triste comme histoire. À la base, Jack O'Neill, il part sur Abydos en espérant ne pas revenir. Bon, tout se décante après, mais c'est triste comme histoire. Même les histoires de Daniel Jackson dans la série, tout est triste. Et pourtant, ça fait l'effet inverse sur le public. Les gens, ça leur fait du bien de regarder
ça. Ils s'attachent au personnage.
Voilà.
Ah oui, donc clairement, c'est pas un conte de fées.
C'est notre vie de tous les jours. Il faut imaginer un peu, il faut s'approprier ce qui se passe, mais c'est ce qu'on vit chacun. Il faut adapter.
Je pense que le drama est bon au cinéma.
Oui.
Oui, oui. Ouais. Bah, de toute façon, généralement, les histoires heureuses, ça fait pas 17 saisons.
Ça, voilà.
Et le casting a beaucoup fait pour crédibiliser l'univers. Alors, j'ai cité Kurt Russell, James Spader, mais il y a aussi cette actrice Viveka Lindford qui joue Catherine Langford. Et parce que souvent, quand on parle du film Stargate, on parle de Kurt Russell. Et je trouve que cette actrice qui avait déjà toute une carrière à Broadway et aussi dans un cinéma classique, dans des péplums et tout ça, apporte une sorte de classe dès le début où elle parle à James Spader en lui disant mais attendez, vous avez besoin de soutien, vous n'avez pas d'argent, moi je vous propose de venir en Égypte, de venir travailler sur un projet. Et en fait elle amène une classe, mais ça m'a fait rigoler parce qu'en fait elle amène une classe qui va au-delà du budget du film. Et d'ailleurs je trouve que le secret de Stargate, c'est que on a vraiment l'impression d'avoir un blockbuster mais faramineux, alors qu'en fait on se rend compte qu'il n'a pas dû coûter si cher que ça.
250 millions, je crois, au début.
C'est une broutille.
Il a généré 250 millions, il a coûté 55 millions de dollars à l'époque. C'est ça. Il a généré 250 millions à la sortie en salle.
Parce que même en effet spéciaux...
Même les acteurs n'étaient pas payés.
Non.
Ray J. Davidson, qui a fait Ra, lui, il avait pris un cachet d'un million.
Il n'a plus rien à faire après.
Il n'a plus rien fait. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les acteurs n'avaient pas eu un énorme cachet. Après, l'inflation n'est pas la même qu'aujourd'hui. Oui. Mais
Pour l'époque, c'était un budget quand même, 55 millions. Il faut se rappeler qu'en 1994, 55 millions de dollars, c'était un budget assez conséquent. Je crois même que Star Wars, je peux même me tromper maintenant, mais il détenait le record de figurants sur une série. Ils sont tous en train de courir dans le sable, il y a plus de 2500
figurants. Il n'y avait pas d'effet numérique.
Non, il y avait plus de 2500 figurants qui couraient tel un péplum, et je crois qu'ils ont détenu le record pendant un moment.
Une grosse partie du charme de Stargate, le film, vient de la bande originale magnifique de David Arnold. On écoute le thème principal qui t'invite à l'aventure presque plus fort que Denis Brogniart.
Blockbuster sur France Inter.
Captain Samantha Carter reporting, sir.
Capitaine Samantha Carter au rapport, mon colonel.
But of course you go by Sam.
Vous préférez vous faire appeler Sam?
You have to worry, Major.
Ne vous inquiétez pas, Major. Je n'ai plus joué à la poupée depuis mes 10 ans.
G.I. Joe.
Oh, G.I. Joe. Major
Matt Mason. Non, le Major Matt Mason.
Oh.
Qui ça?
Le Major Matt Mason, la poupée astronaute. Cool, le modèle muni du petit parachute pour le faire voler.
Merci, messieurs.
Colonel.
Thank you. Merci.
Pour ceux d'entre vous qui feront le voyage pour la première fois, il faudra bien vous préparer.
J'ai pratiquement mémorisé le rapport de la première mission. Je n'ai jamais été aussi bien préparé de toute mon existence.
Ce que le colonel veut vous dire, c'est: avez-vous déjà pratiqué une simulation de bombardement à bord d'un F-16 à plus de 8G?
Oui.
Oh.
Well, it's way worse than that.
Eh bien, c'est 10 fois pire que ça.
Au moment où vous passerez de l'autre côté, vous serez complètement gelé, comme si vous étiez en plein blizzard.
Naked.
Toute nue.
Cela est dû à la compression des molécules qui a lieu durant la milliseconde nécessaire à la reconstitution du corps.
Oh, bah voyons. Encore une scientifique, mon général, pitié.
Théoristienne en astrophysique.
Which means...
Ce qui signifie qu'elle est plus intelligente et plus maligne que vous, colonel. En particulier pour tout ce qui concerne la porte des étoiles.
Mon colonel, j'ai étudié la porte sous toutes les coutures 2 années complètes avant que M. Jackson, vous et vos hommes, ne l'utilisiez. J'aurais dû partir avec vous. Alors vous et ces deux messieurs feriez mieux d'accepter le fait que je parte avec vous cette fois.
Professeur, avec tout le respect que je vous dois...
Dans l'armée, mon colonel, on appelle une personne par son grade, pas par sa fonction. Alors appelez-moi capitaine, pas professeur.
L'affectation du capitaine Carter sur cette mission ne se discute pas, c'est un ordre.
Je suis officier de l'armée de l'air, comme vous, mon colonel. Et le fait que mes organes de reproduction soient situés à l'intérieur de mon corps ne veut pas dire que je vous suis inférieur, mon colonel.
C'était un extrait du premier épisode de la série Stargate SG-1 avec Amanda Tapping, doublée en français par Hélène Chanson dans le rôle de Samantha Carter. Alors, on l'a entendu, Stargate SG-1 se situe chronologiquement après le film Stargate. Donc peut-être que pour ceux qui n'ont vu que le film, ils se souviennent de Jackson qui est resté sur la planète
Abydos.
Alors que O'Neill est revenu. Et dans Stargate SG-1, il est donc décidé de repartir, de reprendre cette porte des étoiles avec un nouveau membre, Samantha Carter. Christelle, quelle est la différence de ton entre Stargate SG-1 et le film? Qu'est-ce que Stargate SG-1 permet d'ouvrir comme porte, c'est pas un jeu de mots, mais sur la franchise, sur l'univers Stargate SG-1. En termes de mythologie, en termes de planète, sur quoi ça ouvre ?
Ah, sur oui, énormément de mythologie. En fait, le principe de base, les Goa'uld, donc les méchants, entre guillemets, sont des dieux. Et en fait, les histoires des dieux que nous, on connaît sur Terre, genre Ra, Apophis, même Chronos, Zeus et compagnie, en fait, ce sont différents clans, groupes de Goa'uld et...
Voilà. Qui aimaient bien venir voir des peuplades de primitifs pour se faire passer pour des dieux.
Oui, c'est ça. Et puis, ils en avaient aussi besoin pour habiter leur corps.
Et c'est ce qui explique, d'ailleurs, et c'est aussi une astuce scénaristique assez intéressante, pourquoi, à chaque fois qu'ils empruntent une porte des étoiles, ils se retrouvent sur des planètes où l'atmosphère est toujours... l'air est respirable, et ils trouvent des humains qui leur ressemblent, parce que les Goa'uld, quand ils ont été colonisés un peu partout, ils ont...
À la base, ils ont pris les humains de la Terre, voilà. Et puis après, ils ont peuplé les autres planètes de la galaxie, et, pour en faire clairement des esclaves, et ils ont arrêté sur Terre parce que les esclaves se sont rebellés contre le dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont enterré la porte des étoiles pour l'éternité, en théorie.
Et alors, dans cette série Stargate SG-1, quel est votre personnage coup de cœur ? Quelle est l'invention qui vous a le plus plu ? Vous écoute.
Personnage coup de cœur, j'aime beaucoup Daniel Jackson, mais surtout en fait le duo comique qu'il forme avec Richard Dean Anderson. Les deux ensemble, on sent qu'il y a quand même quelque chose derrière et c'est des ping-pong. Et donc, ouais, je trouve ça très intéressant. Puis le petit clin d'œil dans l'épisode 1 sur on a MacGyverisé la console, j'ai bien aimé, c'était mignon.
Atlant Props.
Mon personnage préféré, c'est Daniel Jackson, parce qu'il a vraiment une histoire tout au long de la série. Au début, c'est un petit archéologiste lambda, et en fait, au fur et à mesure, il évolue et devient vraiment un membre actif de SG-1 dans l'US Air Force. Même si officiellement, il n'est pas membre, mais il le devient complètement, il a tous les codes, etc.
Oui,
et il fait un peu la transition avec les peuples, donc à chaque fois, c'est lui qui est là un petit peu pour faire le papa entre l'équipe SG-1 qui veut tout casser et les peuples qui n'ont rien demandé. Donc je caricature, hein, parce qu'il y a 10 saisons, mais moi, c'est mon personnage.
Oui, parce qu'il y a une évolution aussi, même du regard qu'on porte sur l'armée américaine.
Exact.
Au début, on est quand même un peu dans le complexe du White Savior.
Hein. Exactement. Mais après, ils ont eu des assistants de l'US Air Force qui ont été sur les plateaux pour essayer d'arrondir un peu les angles pour montrer que l'US Air Force n'est pas tellement méchante, mais est bienveillante.
Voilà. Oui, bon, après, le C4, c'est quand même leur utilisation principale.
Oui, après, c'est contre les méchants.
Les mêmes existent pour ça.
La série a été supervisée par l'armée américaine.
Exact. Oui, donc il fallait quand même que ça aille dans un certain sens.
Richard
aussi.
Dean Anderson a même été, je crois, colonel ou général d'honneur, honoraire,
je sais pas,
à la fin. Il a été médaillé par l'armée.
Mais il y a plusieurs généraux des états armées américaines qui ont joué des rôles dans la série. Donc il y a vraiment eu un...
Eh ben moi, comme mes collègues, j'allais dire Daniel Jackson, mais bon, ça fait un peu redondant. Donc je vais dire Richard Dean Anderson, déjà, parce que je suis un fan de MacGyver, et surtout, malgré que ça soit le fait pour tous, un épisode sans Richard, on le ressent. Si Richard n'est pas dans l'épisode, on ressent que c'est pas pareil.
Ouais, clairement, c'est pour ça que les 2-3 dernières saisons de SG-1... L'histoire est sympa, mais il y a un petit coup de mou.
Je pense que le succès n'aurait pas été au rendez-vous sans Richard.
Mais d'ailleurs, en fait, il faut aussi rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire qu'on a un acteur qui a porté deux grandes séries cultes, MacGyver et Stargate SG-1.
Et j'irai plus loin que ça, parce que je dirais même que Richard a importé une grande partie de l'équipe de MacGyver sur Stargate. Énormément de ses équipiers en tant qu'acteurs ou à la réalisation ont basculé de MacGyver à Stargate. Il n'est pas arrivé tout seul.
MacGyver, qui était une création de Fonzie.
Oui.
Pour les auditeurs les plus âgés, Happy Days, le Fonz, c'est lui qui a créé MacGyver.
André Winkler.
Oui. Et comment ce nouveau casting a justement été choisi ?
Voilà. Justement, une grande partie venait de MacGyver. Par exemple, Christopher Judge, il avait joué un épisode dans MacGyver. Daniel Jackson.
Christopher Judge, qui joue Tic, Tilk, et qui est d'ailleurs devenu très très connu des millennials avec la voix de Kratos en version originale. Kratos, le dieu de la guerre dans le jeu vidéo God of War.
Daniel Jackson, il n'a pas participé à MacGyver, par contre il a découvert entre guillemets les séries télé en assistant à un tournage de MacGyver. Il y a beaucoup de choses comme ça. Danshi, qui joue un rôle de temps en temps dans la série, qui est aussi le cascadeur de Richard. On a John Hammond, enfin le personnage de John Hammond joué par Donnez Davis, qui a joué, qui était aussi le remplaçant, comment il s'appelle, du chef de MacGyver dans la série.
Dans MacGyver aussi.
De Dan Eclair. C'est ça. Donc en fait, la plupart du casting vient directement de MacGyver. Pas tous, mais la plupart.
Donc en fait, c'est le Stargate SG-1.
Ils se connaissaient avant.
Et le fils spirituel de MacGyver.
Ils se connaissaient tous à peu près avant.
Et c'est une série qui fait la part belle à l'exploration, ce que fait aussi Star Trek, ce qu'a fait Star Trek et ce que fait toujours Star Trek encore aujourd'hui. Parmi tous les peuples qu'on a pu rencontrer, est-ce que vous avez une peuplade qui vous a plus marqué que les autres et pour lequel vous avez une affection particulière ? Christelle ?
Moi, c'est dans un peuple qu'on rencontre dans la saison 1, ce sont... Non, pas les Nox. Les descendants de Pélops, entre guillemets. Et j'ai un bug sur le nom de l'épisode, ça va revenir, c'est pas grave. Et en fait, ils vivent que 100 jours. Ils vivent 100 jours. Les désignés, les...
C'est là où Richard vieillit aussi.
C'est ça, ouais, tout à fait.
Et ça l'avait profondément marqué, cet épisode-là, parce qu'il s'était vu vieux et ça l'avait fait beaucoup réfléchir.
Et en fait, ils vivent 100 jours et il faut qu'ils prennent le meilleur du monde. Et donc, en fait, juste, ils dansent, ils mangent, ils sont des couleurs, enfin des vêtements aux couleurs vraiment magnifiques. Ça s'est resté un peu
c'est-à-dire
dans l'ambiance.
Sur 100 jours, ils prennent pas le temps de faire
un jour. Un jour, c'est une année. Exact. Un jour, c'est une année.
D'accord. Et puis, ouais. Et là, on est la première fois aussi sur de la mythologie grecque et puis de l'égyptienne. C'est la première porte. Ah, on commence à dévier un peu. On va avoir des choses intéressantes.
Atlante ?
Moi, c'est les épisodes quand ils ont commencé à introduire les Amazones. C'était les femmes Jaffa. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'ils ont commencé à introduire des féministes badass. Et du coup, c'était cool parce que les Jaffa, donc c'était souvent que des hommes. Ça, de toute façon, pendant toute la série, ça a toujours été que des hommes. Et un peu bêtes, qui se font tirer dessus, qui tombent. Il n'y avait pas vraiment de technique de combat, etc. Et quand ils ont introduit les Amazones, j'ai trouvé ça super cool parce qu'il y avait enfin un côté beaucoup plus technique. Au niveau des techniques de combat. Et après moi je suis ami avec une des actrices qui a fait partie de ces épisodes, donc du coup il y a un peu un lien émotionnel.
Marco ?
Moi je dirais simplement les Asgard, tout simplement parce que c'est le rêve de tous, c'est l'alien par excellence qu'on a tous imaginé. C'est un peu le mix entre E.T. et Mars Attack, on va dire. Bon, Mars Attack en plus beau, hein, quand même. Mais c'est vraiment les Asgard, c'est les êtres un peu, on va dire, spirituels. C'est les guides des humains, tout simplement. C'est nos référents, nos protecteurs. Et puis, ils sont badass.
Ah oui, puis c'est vrai que les épisodes, faits avec eux...
C'est un fil rouge. On les retrouve
carrément.
Tout le temps.
Ah, puis, c'est la fin magnifique. Ouais. Ah, magnifique.
On est ensemble pour parler de l'univers foisonnant de Stargate, mais pour le moment, on écoute Yeli Yeli avec Nuba Galactica.
Efface tout. Thank you. les souvenirs passés. Nos feux tristes ou joyeux. Ces trésors envolés.
Attention, qui que vous soyez, attention.
Blockbuster.
Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Frédéric Sigrist.
Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Sur France Inter.
Listen, you don't have the exact...
Vous pouvez me dire quelle est la date d'aujourd'hui?
Quelles sont les armes dont vous vous êtes servi?
Weapon.
Comment ça?
Nos caméras ont vu des choses qui ressemblaient à des armes.
Ah oh. Oh, oui. Well, it's... Mais c'est difficile à dire.
Selon vous, ça pourrait être une sorte de secret d'État?
Non, non, je veux dire que c'est difficile à prononcer.
Monsieur Kerr, mon gouvernement a quelques difficultés à accepter les espions soviétiques dans ses installations de haute sécurité. Et je suis comme lui.
Oh.
Bob,
je peux vous appeler Bob?
Oui, mais sachez que ça ne vous apportera rien.
Sauf si ce rien est précisément ce que je cherche à obtenir.
Kirk, si vous refusez de me parler, je vous donnerai la chance de le faire à la CIA.
Oh.
All right.
D'accord.
I'll be honest with you, Bob.
Je vais être franc avec vous, Bob.
My name's not Kirk.
Je ne m'appelle pas Kirk.
It's Skywalker.
Mais Skywalker...
Luke
Skywalker.
On est ensemble pour parler de l'univers Stargate et vous venez d'entendre un extrait de l'épisode 21 de la saison 2 de Stargate SG-1. Donc, on le sait, à la base, Stargate c'était un film de Roland Emmerich. Mais il l'avait initialement imaginé comme une trilogie.
Oui.
Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé en fait?
Je vais laisser plutôt la place à Atlante qui connaît mieux le sujet. Vas-y mon Julien.
Donc à la base c'était censé être une trilogie pour Roland Emmerich et donc le premier film c'était sur Abydos et on était censé découvrir plusieurs cartouches dans les seconds films et en fait ça menait à trois planètes. Donc en gros la mythologie était assez restreinte par rapport à ce qu'on connaît maintenant avec SG-1 et en fait avant la sortie du film en salle, les ayants droit ont pris peur et ont revendu les droits à la MGM à l'époque. Bon, c'était pas la MGM, c'était Showtime Entertainment.
C'était Showtime
voilà.
Qui a fait la série.
Voilà, ils ont vendu les droits, en fait.
Sans en parler à Roland Emmerich, le créateur.
Bah, en fait, lui, il n'avait pas les droits, puisque lui, oui. Il était créateur, et après, il a trouvé quelqu'un pour le financer, c'est eux les ayants droit, etc. Donc, il a juste produit, ouais. Et du coup, avant que le film sorte en salle, les ayants droit ont eu peur que ça ne marche pas, ils ont revendu les droits, la série a eu un succès, et du coup, bah, Roland Emmerich, qui avait plus la main dessus, bah, du coup, c'est passé après en série avec Showtime.
Et donc, sur la série, lui, il n'a absolument rien eu à dire
Non, il n'avait plus son mot à dire, plus du tout.
Mais pourtant, il a longtemps caressé l'idée de refaire une nouvelle trilogie sur l'univers.
Exactement. Bah quand la série s'est terminée, quand ça s'est un peu tassé, il y a eu des rumeurs sur une nouvelle trilogie. Ils ont sorti Independence Day 2, qui a fait un flop. Et du coup, Stargate est un peu passé dans les tiroirs de la MGM.
Et désormais, c'est même plus MGM qui a...
Maintenant, c'est Amazon. Bon, en fait, ça reste la MGM. En fait, Amazon détient la MGM. Mais du coup, ouais, le commanditaire, maintenant, c'est Amazon. Après, il y a quelques nouvelles sur les réseaux, etc. Celle qui reprend un peu le management de tout ça est plutôt enclin à faire du Stargate, que la personne d'avant ne l'était pas, la personne d'avant a été évincée, etc. Donc, l'espoir est là.
Et en film ou en série ?
Oula, c'est la grande question.
Parce que y a toute une économie désormais sur les plateformes des séries à budget assez important, mais on voit aussi que notamment sur Amazon, les Anneaux de Pouvoir, ça a été un gouffre financier qui a pas ramené autant d'abonnés qu'elle aurait dû. Est-ce que tout ça est à prendre en compte aussi dans l'avenir d'une série SF telle que
Oui, parce que du coup, comme Amazon ont relancé une série comme vous disiez avec The Rings of Power, ça a forcément un impact s'ils veulent refaire une série sur n'importe quelle autre franchise dont ils détiennent les droits.
Et je sais qu'il y a une sorte de panthéon de séries SF, Battlestar Galactica, Star Trek, Stargate. Qu'est-ce qui les différencie selon vous, pour expliquer au grand public, hein, parce que vous, je sais très bien que vous savez précisément ce qui est différent, mais pour le grand public.
Il n'y a qu'un seul mot, c'est Richard Dean Anderson.
Mais en fait, Marco, il est complètement...
addict à Richard Dean
Anderson. Parce que addict l'a marié à Tiffany, c'est pour ça.
C'est une vieille histoire. Ça. Oui, non, parce qu'en fait, quand j'ai fait ma demande en mariage à ma compagne, on avait prévu un petit truc avec Julien, et en fait, la bague de mariage, c'est Richard qui l'a sortie, qui me l'a donnée. Enfin, il y a tout un stratagème avec Richard.
C'est dans le sujet.
Je t'enverrai la vidéo.
Ah d'accord, ok. Ah oui, donc donc c'était un peu votre prêtre quelque
Exactement.
Part.
Exactement.
Oui, clairement.
Ah bon, d'accord.
J'ai pris la bague parce que j'ai cru que c'est lui qui allait demander. Donc tu vois,
Et est-ce que vous pouvez expliquer les différences entre Stargate Atlantis et Stargate Universe?
Alors, je pense que, alors personnellement, je pense que la série a voulu évoluer avec son public. C'est-à-dire qu'on a vieilli, on a voulu avoir, je pense, une série un peu plus mature qui m'a plu avec le temps. C'est beaucoup de réflexion. Stargate Atlantis, c'était ça ta question. Oui. C'est beaucoup plus... Tout le monde peut regarder, je pense. C'est moins...
Il n'y a pas un consensus sur le sujet. Hein.
C'est moins glauque, j'ai envie de dire, que certaines comme SG1 parfois ou Univers.
C'est moins glauque avec les Wraiths. Sérieux?
Ils font rire.
Non mais attends, sur le principe, vas-y, je te prends ta vie et puis comme ça tu meurs. C'est un peu hardcore quand même.
Il y a un épisode où on lui redonne aussi, il faut jouer un petit peu. Non, par contre, très précurseur, on dit tout le temps que les Simpsons voient l'avenir. Et dans Atlantis, comme dans SG1, il y a beaucoup de choses qu'on voit dans la série qui sont passées dans la réalité, comme la pandémie, comme beaucoup de choses comme ça qui sont prévisibles. Mais par contre, on aborde tous les sujets de notre vie quotidienne. Et la différence, c'est que je pense que si tu as un adolescent, tu lui fais regarder Atlantis parce qu'il ne va pas aimer Universe.
Univers, moi perso, je sais que j'ai appris à l'aimer avec le temps. Tu vois, j'ai regardé la première fois, mais puis à la deuxième, troisième visionnage, tu vois,
Oui, quand même, deuxième ou troisième visionnage, c'est pas quelque chose qu'on aime pas trop.
Déjà, Univers, on reste sur notre fin aussi. Ça ne se termine pas, il n'y a pas de fin.
Il est extrêmement frustrant, ça, on est d'accord.
Et puis, c'est porté par Robert Carlyle, qui est un acteur de cinéma à la base, dramatique, on peut dire. Bon, après, il a fait Once Upon a Time, etc. Mais avant tout ça, c'est un acteur dramatique.
Et l'acteur de The Full Monty.
Exact.
Voilà, pas du tout un acteur de série télé.
En fait, pour en revenir un peu à Battlestar Galactica, Stargate Universe ont pris un côté beaucoup plus sombre et réaliste, où SG1 et Atlantis, il y avait beaucoup d'humour. Il y avait un peu de gaminerie entre les personnages. Et c'est vrai que Stargate Universe a pris un tournant complètement différent et a fait plutôt quelque chose style Battlestar Galactica, à huis clos, dans un vaisseau, et beaucoup plus sombre et réaliste. Et je pense que c'est ça qui a un peu divisé les fans.
Oui, et puis en plus, il y a quand même quelque chose, on l'a dit depuis le début de l'émission, mais basé sur des mythologies qu'on connaît, sur des cultures qui sont même si c'est des cultures extraterrestres, mais qui sont des dérivés de cultures que l'on connaît également. Il y a quelque chose de très presque local dans Stargate, alors que si on commence à faire des intrigues dans un vaisseau, donc ça veut dire des voyages spatiaux, etc., on est dans un autre délire déjà.
C'est ça.
Moi, je pense que c'est ça qui est un peu coupé avec le public, c'est qu'il y a eu, il y avait encore ce côté exploration, mais il n'y avait plus le côté mythologie. C'était la mythologie des créateurs du réseau Port des Étoiles, donc les anciens. Donc il y avait plus vraiment de mythologie auquel on pouvait se rattacher, puisque c'était une mythologie inventée pour le coup. Mmh. Voilà.
On approche de la quatrième partie de notre blockbuster consacré à Stargate, mais on va marquer une petite pause musicale avec Arat Kilo et Barala.
At work, but nothing is working. The grind is the grind until the end times. Keep your head up, we deep in the mines. Nah, it ain't about paper, don't put me on paper. I read all your papers, the legends of slavers. There won't be a sequel, I'm threading the needle, so tear down the steeple. Humanity's traitors, I'm fighting for equal. I know how to reach you, I don't want to teach you, but now there's no later. Mama, we sung on the songs, give me one more. Papa, we done with the bombs. Mama, we sung on the songs, give me one more. Papa, we done with the bombs. Mama, we sung on the songs, give me one more. We are a people and we've been a people and we'll be a people when you're out of favor. Your murder was legal, our labor illegal. You raider, we beagle, we lava and craters. This is the time, it's all on the line. No quarters or dimes, we taking these mines. Yeah. There won't be a sequel, I'm threading the needle. So tear down the steeple, humanity's traitors. I'm fighting for equal, I know how to reach you. I don't want to teach you, but now there's no later. Give me one more. I said, Papa, we done with the bombs. Mama, we sung on the songs. Give me one more. Papa, we done with the bombs. Mama, we sung on the songs. Give me one more. Papa, we done with the bombs. Mama, we sung on the songs. Give me one more.
Blockbuster. Frédéric Sigrist sur France Inter.
Quand on muselle la presse, tout ce qu'on a, ce sont des mensonges, des contre-vérités et de la propagande. Et je vous assure qu'il n'y a rien de pire pour une société qu'avoir une presse qui se retrouve au service des militaires et des politiciens. C'est la fin de la démocratie, ça! Alors à partir de maintenant, je vous interdis d'éteindre cette caméra. Et je me fiche de ce que vous pouvez penser de moi. Vous croyez servir le peuple? Moi aussi, je le sers!
C'était un extrait de la saison 7, épisode 18 de Stargate SG-1 avec le reporter de télévision Emmett Bregman, interprété par Paul Ruinec et doublé en français par Michel Dodan. Alors, on le voit dans cet extrait, il y a énormément de thématiques abordées dans Stargate SG-1, des problématiques politiques, des problématiques religieuses, des problématiques interventionnistes. Est-ce qu'on ne va pas bouleverser l'écosystème ou la politique d'une peuplade en intervenant trop ? Ça bat en brèche cette idée selon laquelle l'ASF n'est pas politique.
Il n'y a que de ça dans Stargate.
Je ne sais pas qui peut dire que l'ASF n'est pas politique.
Plein de gens, si vous saviez le nombre de fois où les gens m'expliquent la fantaisie, pas politique, l'ASF, pas politique.
La politique, pas du tout,
la politique se sert de l'ASF, oui.
Il y a beaucoup de rapports entre Stargate a fait pas mal de rapports religieux sur tout ce qui est guerre de clans, etc. Donc oui, quand même, il y a eu pas mal de...
On est beaucoup dans le contexte de la guerre froide aussi, dans SG-1. Mm-hmm.
Oui, puis aussi, même dès le film, le rapport à l'écriture. C'est-à-dire qu'une population qui se révolte, c'est souvent une population...
Un suite aussi, oui.
Oui, qui a accès à l'éducation. Mm-hmm. Et c'est pas un hasard si les Goa'uld ont banni l'écriture de certains peuples qu'ils ont colonisés parce qu'ils ne veulent pas de révolution.
Exact.
C'est comme on dit dans l'armée, réfléchir, c'est commencer à désobéir. Oh. Donc dès le moment où tu commences à évoluer et tout ça, t'es un danger.
Et pour revenir sur Stargate Universe, un des scénaristes est aussi le scénariste de la série Dark Matter.
Dark Matter, Joseph Malozzi, oui.
Et il a commencé sur SG-1.
Sur SG-1. Et il arrive en milieu de saison, je crois, de SG-1. Il a participé également avec Paul Mully. Hein, c'était vraiment son associé pour écrire. Il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu Robert C. Cooper, etc. Mais son associé, c'était donc Joseph Malozzi et Paul Mully. Je crois qu'il est dur sur Dark Matter, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il a fait SG-1, Atlantis Universe. Et après, il a eu son bébé, son grand bébé. C'était Dark Matter. 2 saisons, je crois.
D'accord.
Je vous confirme, 2 saisons.
Et là, je me tourne vers Atlant Props. Oui. J'ai vu votre travail qui est absolument magnifique. Vous avez reconstitué une porte des étoiles.
Exact.
En grand.
Alors, au tout début, j'ai reconstitué un vaisseau spatial de Goa'uld dans la série Stargate. Comme j'adore l'Égypte et que tous les murs des vaisseaux sont bardés de hiéroglyphes, du coup, je me suis amusé à faire ça.
Mais donc, comment ça vous est venu ? C'est-à-dire que vous aviez déjà une formation de plasticien ?
Pas du tout. J'ai eu un bac en gestion des ressources humaines à la fin de mon bac.
Mais voilà, alors là, vous m'intéressez énormément. Voilà.
Et en fait, ça m'intéressait de faire des objets. En fait, j'avais commencé à en collectionner quelques-uns. Je trouvais la qualité pas forcément au rendez-vous. Et du coup, je me suis dit, si la qualité n'est pas là, pourquoi pas le faire moi-même ? Et j'ai commencé en 2014. Ouais, donc ça commence à remonter. Et aujourd'hui, c'est mon métier. Donc, je suis plasticien, effets spéciaux ou production designer. En gros, c'est chef déco, pour la traduction.
Et donc, tout a commencé avec Stargate.
Tout a commencé avec Stargate, ouais, c'est clair. Ouais. Tout mon métier, ma passion a commencé avec Stargate.
Après, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a des accessoires uniques chez lui.
Oui, et du coup, pour la porte des étoiles. Donc, j'ai refait une porte des étoiles à l'échelle 1,5. En fait, c'est très technique. C'est parce qu'en événement, quand vous dépassez les 3,50 m, il faut harnacher votre structure au plafond et ça coûte super cher. Donc du coup, je me suis limité à 3,25 m et du coup, je passe tout pile et c'est plus facile à transporter pour prendre des photos pour les visiteurs.
Et alors, comment ça se passe avec le studio mère ? Parce que je sais qu'il y a des licences, tout ce qui est Disney, Star Wars et tout ça. Bon, on a à peine terminé juste d'évoquer le nom qu'il y a déjà quelqu'un qui vous dit « Vous nous devez tant ». Donc comment ça se passe avec Stargate ?
Alors, moi, j'ai déjà travaillé avec Amazon. Donc là, je retravaille avec eux au mois de septembre. Je fais une exposition de Stargate et de Star Trek aussi dans leurs locaux. Donc, j'ai un peu cette facilité d'accès. Et en fait, c'est un peu une zone un peu grise où, avec mes décors, je fais de la pub pour Stargate sans que les ayants droit, pour le coup, Amazon ait à débourser de budget communication. Et en même temps, je leur fais pas de... C'est pas moi qui vais faire un trou dans leur compte bancaire. Voilà. Donc, du coup, ça passe.
Oui, je crois que j'ai vu le relevé bancaire de Jeff Bezos, je pense qu'il va bien.
Voilà, c'est ça.
Clairement, ils s'en foutent.
Donc, du coup, au niveau licence, c'est un peu comme les cosplayers. Un cosplayer qui va se mettre en tort et qui va facturer sa prestation. Disney va pas l'embêter, puisqu'en fait, c'est un cosplayer. Il utilise de sa personne pour effectuer une prestation. Donc, de ce côté-là, c'est pas trop embêtant. Après, c'est quand vous vous mettez à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de répliques. J'ai vu des gens sur les réseaux sociaux qui avaient fait un casque de Mandalorian, par exemple, de Star Wars, mais il a mis ça dans son atelier, il y en avait 200. Bah, la semaine suivante, il n'y avait plus de page Facebook de ce monsieur parce que bah, il s'est fait
toquer
à la porte.
On ne retrouve plus ce monsieur non plus. Il a disparu de la circulation.
Donc en fait, il faut arriver à en faire assez pour maintenir la franchise, pour faire de la pub, mais pas en faire trop pour pas non plus les évincer. Mais moi, à mon niveau, tout seul, c'est pas moi qui vais évincer Amazon.
En tout cas, on va mettre un lien de votre fabuleux travail sur le site de l'émission. Émission qui s'achève malheureusement, ben oui, ça passe vite. Une émission réalisée par Étienne Bertin et Amazir Amadein Guest. Elle a été préparée par Lisiane Larbani et Benjamin Dufy. Et aujourd'hui à la technique, il y avait Jérôme Ragano et au mixage, Mathias Alléon. Comme toujours pour les messages, le répondeur est ouvert tout l'été au 01 56 40 30 20. Et nouveauté, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter sur laquelle vous retrouverez toutes sortes d'informations. Le lien pour s'inscrire est disponible sur mon compte Instagram, @frederic.sigriste. Demain, on se retrouve pour parler d'une des autrices classiques incontournables de la littérature anglaise devenue une icône de la pop culture, Jane Austen.
Si mon pauvre père pouvait voir ça...